Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez encore un peu d'énergie pour la prédication? Parce qu'on a déjà entendu pas mal de choses, pas mal de belles choses ce matin. On va quand même continuer notre série dans le sermon sur la montagne de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Cette semaine, je voulais commencer en vous disant que je suis retombé sur un reportage que j'ai vu il y a un an et demi à peu près. C'était pendant l'élection présidentielle. J'ai revu finalement quelques séquences de ce reportage. C'est un reportage qui s'appelle « Dans l'enfer des campagnes présidentielles ». Il est sur YouTube, peut-être certains vous l'avez vu. Et en revoyant ce reportage, je me suis dit, dans une élection, les candidats, c'est vrai, ils nous font des promesses en fait. Hein. Ils défilent les uns après les autres, ils viennent nous faire des promesses. Et ils nous expliquent, voilà ce qui va se passer si vous votez pour moi, voilà ce qui va se passer si vous me laissez régner sur vous. Et vous avez sans doute remarqué qu'ils promettent souvent la même chose. Ils promettent le bonheur, ils promettent l'épanouissement, ils promettent le bien-être. Et c'est la même chose d'ailleurs, hein, je pense, au travail. Si vous changez de patron, le nouveau patron arrive et il dit, va y avoir un grand coup de balai, les choses vont changer, vous allez le sentir, votre qualité de vie, votre bien-être va augmenter. Et quand je lis le discours de Jésus dans le sermon sur la montagne, je me dis, mais Jésus, en fait, il fait un peu la même chose. Il annonce ce qui va se passer quand son influence va s'étendre. Et ce qu'il nous promet, c'est le bonheur. On l'a vu, hein, dès le début du sermon, il commence en disant « heureux ». Et il débute son discours avec 8 béatitudes qui toutes commencent par « heureux ». Et ce que Jésus est en train de nous dire, hein, c'est que finalement, si on accepte réellement l'influence de son règne, de son pouvoir, ce qu'il y a au bout du compte, c'est la joie. C'est le bonheur. Ce n'est pas la contrainte, mais c'est l'épanouissement. C'est d'être bien et enfin comblé. Et ce matin, avant de lire les versets qui vont nous intéresser pour aujourd'hui, il y a seulement 4 versets, donc ça ne va pas non plus être très très long. Je voulais juste revenir un peu sur la question du bonheur. Okay ? Juste revenir un peu sur ça. Je sais que je l'ai déjà un peu abordé lors des deux premières prédications de la série, mais j'avais envie d'insister sur ça ce matin, parce que quand on voit les heureux, heureux dont Jésus parle, heureux ceux qui, quand on voit ça, on se dit, mais on ne voit pas des gens dans le bonheur, on voit plutôt des gens dans le malheur. Quand Jésus dit heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, pour nous, je ne l'ai pas assez souligné, je pense, la première fois, mais je ne sais pas si, enfin, ça nous paraît improbable, je pense. Ça nous paraît improbable. Pour nous, on va dire heureux ceux qui sont riches matériellement. Ça, c'est évident. Heureux ceux qui sont riches matériellement, pas pauvres spirituellement. Et Jésus, il dit complètement autre chose. Il dit heureux aussi ceux qui pleurent. Je ne sais pas si vous regardez les publicités sur TF1. En ce moment, j'ai le temps, il y a la Coupe du Monde de rugby, donc j'en vois quelques-unes passer. Il n'y a jamais aucune pub que vous voyez qui veut vous dire prenez tel produit, achetez telle chose et vous allez pleurer. Et ça va vous déchirer, et vous allez être dans le deuil, dans les larmes, et ça va être le deuil et la misère. Il n'y a jamais aucune pub qui fait ça. Il n'y a personne qui achètera un produit comme celui-là. Ce n'est pas vendeur. Et en fait, vous voyez, notre société, quand on voit les discours dans notre société et quand on compare ça aux enseignements de Jésus dans le sermon sur la montagne, ce dont on se rend compte, c'est que ce que le monde propose et ce que Jésus propose, c'est la même chose. C'est exactement le même objectif. C'est le bonheur. Mais quand vous voyez l'enseignement de Jésus, vous réalisez que les chemins pour y parvenir ne sont pas juste un peu différents, mais ils sont carrément différents. C'est des voies qui sont diamétralement opposées. On est aux antipodes. On a affaire à deux systèmes de valeurs, mais qui sont diamétralement opposés l'un à l'autre. Et j'aimerais juste aller un peu plus loin et vous soumettre l'idée en fait, que quelqu'un est en train de mentir dans cette affaire. Quelqu'un ment. Quelqu'un ment, parce que ce n'est pas possible que les deux soient vrais en même temps. Et la question que je nous soumets ce matin, mais c'est qui ment? Le canular, il est où? Qui c'est qui ment? Et est-ce que ce matin, on est en train de marcher sur le vrai chemin du bonheur? Ou est-ce qu'on s'est fait avoir, quelque part? On s'est fait tromper? Et c'est là où je vous rappelle que nous, intuitivement, quand on parle du bonheur, on pense à un état émotionnel, on pense à de la joie, on pense à quelque chose qui est l'ordre de notre ressenti, qui est subjectif. Et Jésus, il ne parle pas forcément de ça. Il ne parle pas forcément de quelque chose de subjectif, de l'ordre du ressenti, parce qu'il dit « heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés ». Et pour me faire bien comprendre, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Hervé le veau. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Hervé, c'est un veau, c'est une histoire que raconte un pasteur qui s'appelle Jonathan Spencer. Hervé, c'est un veau qui vit dans un champ magnifique, rempli d'herbes grasses. Il y a une source d'eau qui coule. Et Hervé, il est extrêmement heureux dans ce champ. Vraiment, tout se passe bien, il a de l'herbe à volonté, il gambade à volonté dans ce champ qui est grand, qui est large, qui est spacieux. Mais au bout d'un moment, Hervé, bien qu'il soit très heureux, il se rend compte qu'autour de son champ, il y a des prairies magnifiques, il y a des belles montagnes, et il se dit « Ah, j'aimerais bien aller plus loin, mais je ne peux pas parce qu'il y a cette clôture électrique qui est là ». Et il aimerait vraiment se dire, ok, j'ai ce rêve de visiter le monde, de voir les choses. Alors un jour, quand il y a un camion qui débarque, avec un monsieur qui invite Hervé à monter dans le camion, qui invite Hervé Lebeau à monter dans le camion, Hervé, il est comme un dingue. Il est trop content. Parce que ça y est, enfin, il va pouvoir réaliser tous ses rêves. Il va pouvoir partir, il va pouvoir voyager, il va pouvoir aller voir le monde. Il quitte le champ, il rentre dans le camion, la porte est fermée, il regarde tout autour de lui et il découvre des choses incroyables. Et Hervé est un veau heureux. Mais ce qu'Hervé ne sait pas, et je pense, bon, vous en doutez, c'est que ce camion, malheureusement, va à l'abattoir. Ce camion va à l'abattoir. Il a une destination précise et notre ami Hervé va à l'abattoir. Et vous voyez, d'après ceux qui étaient là, les passagers du Titanic étaient dans un état de joie immense, dans un bonheur absolu, avant qu'arrive la catastrophe qu'on connaît. Et la personne qui a des problèmes d'alcool, elle est très heureuse de son point de vue. D'un ressenti subjectif, elle est très heureuse quand elle a beaucoup bu. Mais toutes ces personnes, en fait, elles sont à plaindre, en réalité. Et c'est là, en fait, qu'on doit comprendre que le bonheur du royaume, le bonheur que Jésus nous propose, c'est un bonheur qui est tellement plus riche, qui est tellement plus profond, qui est tellement plus conséquent qu'un simple niveau de bonheur ressenti émotionnel. Vous voyez ? Je vous donne juste cette citation de Frédéric de Conin qui dit « Voilà la définition du bonheur selon le tentateur, selon le diable, que tout roule et obéisse à notre volonté. » Que nos projets se réalisent sans coup férir. C'est vrai, on se dit, si tout fonctionne, si tout roule, on sera heureux. Mais Jésus parle d'un autre bonheur. Il parle d'une traversée de la vie, de ses péripéties, de ses oppositions et de ses injustices en étant porteur d'une autre vision. Et je crois que là où on peut se planter, en tant que chrétien, c'est quand on attend que Dieu nous donne le bonheur subjectif et émotionnel. Et il peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais si c'est uniquement dans ce but-là qu'on approche Dieu, en fait, là, il y a un gros problème, parce que Dieu, dans ce cas-là, ce n'est pas la finalité, mais c'est juste un moyen pour nous. C'est juste un moyen pour nous permettre d'atteindre ce qu'on veut ici et maintenant dans cette vie. Et Jésus dit, le royaume, c'est autre chose, c'est complètement différent. C'est quelque chose de complètement différent. Le bonheur du royaume, il est décorrélé de notre situation, de notre niveau de ressenti émotionnel. Et c'est impossible de toucher le bonheur du royaume, à moins de passer par la pauvreté spirituelle, à moins de passer par les pleurs. Mais ça débouche tout ça sur un état de joie, sur un état de paix, sur un état de stabilité émotionnelle qui est vraiment surnaturel. En sorte qu'on peut dire, comme l'apôtre Jacques, regardez toutes vos épreuves, considérez comme une joie complète. Une joie complète. C'est ça que dit Jacques. Et cette joie du royaume, elle permet des choses comme à ce que des gens qui ont des quantités d'argent énormes, des grandes quantités d'argent s'en dépouillent avec joie. Cette joie du royaume, elle permet à des gens, sur leur lit de mort en phase terminale, de dire « ben, j'ai hâte d'y être ». Et ce n'est pas juste la douleur qui leur fait dire ça, mais vraiment cette joie de se dire « j'ai hâte d'y être ». J'ai hâte d'être dans ce royaume avec Jésus. Cette joie du royaume, elle peut permettre à des gens qui ont subi les injustices les plus pires, les plus atroces, d'accorder un libre pardon et d'être libérés du fardeau du ressentiment, de l'amertume. Et quand vous voyez ça, les amis, vous voyez le royaume, en fait. Là, vous voyez le royaume. Vous n'êtes pas en train de voir juste un petit bonheur subjectif, émotionnel, mais vous êtes en train d'être le témoin d'une révolution qui est surnaturelle, qui est profonde et qui bouleverse vraiment tout. Qui bouleverse tout. Et c'est de ça dont Jésus parle dans le Sermon sur la montagne. Et c'est ça qu'il veut pour nous. C'est ça qu'il veut pour notre Église. Et c'est ça qu'il veut pour tous ceux qui s'approchent de son royaume. Donc, cela étant dit, ça va ? Jusque-là, cela étant dit, on va lire maintenant le texte qui est le nôtre pour ce matin. Je vous invite à reprendre le sermon là où on l'avait laissé. Matthieu, chapitre 5, au verset 17. Et donc, je vais lire les quatre versets de ce matin. Matthieu, chapitre 5, verset 17, je vais lire jusqu'au verset 20. C'est Jésus qui parle. Et voici ce qu'il nous dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, j'arrête la lecture ici. Deux choses que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin, c'est derrière moi. Le Christ est la loi et le chrétien est la loi, versets 17 à 18, puis 19 à 20. On va voir ça ensemble. Et je commence avec le Christ et la loi, une compréhension de la loi plus profonde. Que fait Jésus dans ce texte ? Il vient et il se présente en fait comme un enseignant, comme un rabbi, comme un théologien. Et lui, le théologien par excellence, il va nous dire c'est quoi sa compréhension de la loi et des prophètes. Ok ? C'est ça qu'il va faire. Et il va le faire en fait en s'opposant aux théologiens de son temps. Il va le faire en s'opposant aux spécialistes de la loi. Ces spécialistes, hein, ces experts, c'était ceux qui enseignaient la loi au peuple. Et c'est à eux que Jésus s'adresse. Parce que d'ailleurs, au verset 19, hein, il dit « Celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit au royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il s'oppose aux penseurs, il s'oppose aux théologiens de son temps. Et il va souligner combien il n'est pas d'accord avec leur façon d'interpréter l'Ancien Testament. Et Jésus commence en disant « Ne pensez pas, ne croyez pas, ne vous imaginez pas. » Et s'il fait ça, c'est parce que dans sa pratique, il y avait parfois des façons de faire hein, qui pouvaient laisser entendre, qui pouvaient laisser penser aux gens, qui voyaient agir, Jésus agir, de se dire « Mais en fait, il est venu pour abolir la loi. » Il fait des choses où on se dit « Il abolit la loi. » Vous prenez un exemple, c'est celui de cette femme. Jésus est au milieu de la foule, une femme vient, elle a des pertes de sang depuis des années, et voilà qu'elle le touche. Et Jésus se retourne et lui dit « Qui m'a touché ?» Enfin, il dit « Qui m'a touché ?» La femme précise que c'est elle, Jésus la voit, il la touche, il la guérit. Mais dans la loi, vous avez des pages et des pages et des pages qui disent que quand une femme a ses règles, en fait, il ne faut même pas s'asseoir sur la même chaise qu'elle. Il y a ça dans la loi. Et Jésus, pourtant, il se laisse toucher par cette femme impure, et il sait très bien qu'elle est impure. Hein. Il est au courant de ça, et il fait ça. Et ça, bah, c'était étrange. Et donc, quand on voyait Jésus agir, on se dit, bah, c'est sûr, il abolit la loi, il ne respecte pas la loi. Et pourtant, Jésus dit, c'est juste le contraire, en fait. Ne croyez pas que je suis venu abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je sais que nous, chrétiens évangéliques, on a souvent l'habitude de dire que Jésus accomplit les prophéties. On voit les prophéties en Ancien Testament, on se dit elles sont réalisées dans la vie de Jésus. Mais ici, ce n'est pas seulement de ça dont on parle. Et ce n'est même pas d'abord ça. C'est de la loi dont il est question. Jésus dit « Je suis venu pour accomplir la loi ». Ce n'est pas juste les prophètes qu'il est venu accomplir, c'est aussi la loi de Moïse qu'il est venu accomplir. Et ensuite, Jésus, on le verra dans les semaines qui viennent, Jésus il rentre dans le dur parce qu'à partir du verset 21, il va attaquer l'interprétation que les spécialistes de la loi, les pharisiens, faisaient de la loi. Et il va montrer comment leur interprétation trahit la loi et comment lui, il amène la loi à la perfection. Lui, il amène la loi à son but. Et c'est comme ça, dans ce texte, il faut comprendre le verbe « accomplir ». C'est l'idée d'amener quelque chose à son but. C'est comme un peu avec un verre d'eau. Imaginez, vous avez un verre d'eau, vous le remplissez à ras-bord. Le verre d'eau, il a été amené à son but. Ok ? Eh bien, accomplir, c'est cette idée-là. L'idée, quand Jésus dit « j'accomplis la loi », c'est « j'amène la loi à son but ». C'est-à-dire, je donne sa pleine signification. Je révèle la signification de la loi, le sens profond de la loi. Quand Jésus dit « je suis venu pour accomplir la loi », il est en train de dire qu'il est venu pour nous montrer comment l'interpréter d'une manière juste. Comment l'interpréter d'une manière qui soit conforme à l'intention de Dieu. Et pratiquement tout le reste du sermon sur la montagne va nous parler de ça. Tout le reste du sermon sur la montagne va nous parler d'une obéissance plus profonde et d'une piété plus profonde qu'un chrétien est appelé à avoir par rapport aux spécialistes de la loi et par rapport aux pharisiens. Je vous montre juste le verset 20 pour que vous voyez qu'ensuite, tout ce qui découle, ça découle de ce qu'on voit au verset 20. Jésus dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » En Matthieu 5, versets 21 à 48, Jésus va parler d'une justice, c'est quoi la justice supérieure à celle des pharisiens, des spécialistes de la loi. C'est dans cette section, par exemple, qu'il va dire « Les spécialistes de la loi disent « C'est bien de ne pas tuer, mais moi je vous dis, c'est encore mieux de calmer la colère dans son cœur. » C'est dans ce passage où il dit « Les spécialistes de la loi disent « C'est bien de ne pas tromper sa femme, mais moi je vous dis, c'est encore mieux d'aimer sa femme à tel point que jamais vous la tromperez. Sa femme ou son conjoint. Et en faisant ça, Jésus, il amène la loi à son but. Il lui donne sa pleine signification. Et si on continue, Matthieu 6, et on verra ça, mais ce qu'il fait Jésus, c'est qu'il va parler de la justice supérieure à celle des pharisiens, en s'attardant sur la vie religieuse, en s'attardant sur tout ce qui concerne notre relation avec Dieu, le jeûne, la prière. Il parle de toutes ces choses. Et enfin, la suite du sermon, Jésus parle de ce que c'est la justice du royaume. La justice des disciples du royaume, en lien avec des choses très concrètes, comme les biens matériels, par exemple. Et donc, les dimanches qui viennent, c'est de ces choses-là dont on va parler. Mais là, ce matin, on voit le principe général. C'est peut-être un peu plus théorique. Je vais rendre ça plus pratique dans la deuxième session, dans la deuxième partie. Mais c'est ça le principe général. Et on va voir dans les dimanches qui viennent des situations pratiques, des cas concrets, où Jésus nous enseigne ce que ça veut dire d'avoir une justice supérieure à celle des pharisiens et des spécialistes de la loi. Ça va jusque-là ? Alors, une partie un peu plus concrète, c'est la deuxième, c'est le chrétien et la loi. Juste très brièvement, très très rapidement, si tu es chrétien ce matin, c'est quoi ton rapport à la loi de Dieu ? Eh bien, on peut dire, je vais vous donner deux images en un instant, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas sauvé par la loi, mais parce que on est sauvé, alors dans notre cœur, on a le désir d'honorer Dieu en pratiquant la loi. C'est ça le rapport du chrétien à la loi. Dans la Nouvelle Alliance, le chrétien n'est pas sous la loi, mais le chrétien n'est pas sans loi. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, les amis. Donc, deux images concernant la loi. La loi, pour le chrétien, elle est comme un miroir et comme une boussole. Comme un miroir, pourquoi un miroir ? Parce que, on a parlé de miroir tout à l'heure, Jacques qui a fait référence, parce qu'elle nous montre en fait tel qu'on est, elle nous révèle tel qu'on est, on se voit tel qu'on est quand on voit la loi, et on voit qu'on est incapable d'agir comme Dieu nous demande. Et on se rend compte que ce n'est pas par le moyen de la loi qu'on peut être sauvé. Si vous vous regardez dans un miroir et vous voyez votre image qui est sale, vous voyez que vous avez de la boue sur le visage, vous n'allez pas prendre le miroir pour vous essuyer. Non, vous allez trouver autre chose. Ben, c'est pareil, pour être lavé de nos péchés, ce n'est pas en disant la loi qu'on va le faire, on va se tourner vers autre chose, on va se tourner vers la grâce, vers la miséricorde de Dieu. Et la loi, c'est aussi une boussole. La loi, elle est pure, elle est bonne, c'est la volonté de Dieu. Et elle nous indique ce qui plaît à Dieu, et en ça, elle est vraiment une aide pour notre sanctification. Je vous donne juste cette citation de Thomas Adams, un puritain, un prédicateur puritain, qui dit « Bien que la loi n'ait aucun pouvoir pour nous condamner quand on est chrétien, elle a le pouvoir de nous commander. » Ok ? Et la loi qui doit nous commander, c'est celle qui exige de nous, comme le dit Jésus, une obéissance plus grande, une justice supérieure à celle des spécialistes de la loi et celle des pharisiens. Je vous relis ce verset 20 et je vais passer le reste du temps à parler de ça. « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, dit Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et je pense que on est peu ici à mesurer à quel point ce que Jésus dit ici, c'est ahurissant. C'est ahurissant dans le contexte de l'époque. Parce que les Juifs, ils avaient un proverbe qui disait « si seulement deux hommes sont autorisés à entrer au paradis, l'un sera certainement un spécialiste de la loi, l'autre sera un pharisien. » C'était un proverbe. C'était une façon de dire « on ne sait pas qui est le meilleur entre les deux, mais on sait une chose, on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'y en a aucun qui arrive à leur cheville. Aucun qui est capable d'être meilleur qu'eux. » Pourquoi ? Parce que les spécialistes de la loi, ils étaient ultra calés dans leur connaissance de la loi. Ils pouvaient vous dire, il y a 613 commandements. Ils pouvaient peut-être même vous les réciter par cœur. Ils connaissaient tout. Et les pharisiens, eux, c'était le sommet spirituel de la vie de l'époque. Hein. Ils étaient perçus comme très pieux. Et ils étaient tellement dévoués dans leur obéissance à la loi qu'ils allaient même au-delà. Ils rajoutaient des commandements, ils rajoutaient des lois, ils faisaient plus. Hein, par exemple, quand la loi disait, vous devez jeûner une fois par an, eux, ils jeûnaient deux fois par semaine. Quand la loi disait « il faut payer la dîme des récoltes », vous vous rappelez ce qu'ils faisaient les pharisiens ? Ils payaient aussi la dîme de la nette, de la menthe et du cumin. Enfin, vraiment un zèle qui était là. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais demander à ses disciples d'être plus justes que les pharisiens, c'est comme leur demander d'être plus catholique que le pape. C'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas être plus catholique que le pape. Et comment est-ce qu'on peut faire mieux que ceux qui obéissent à toutes les lois ? Que ceux qui obéissent à toutes les règles, que ceux qui obéissent à toutes les dispositions de la loi, et qui en rajoutent même. Ça paraît impossible. Et pourtant, Jésus dit, vous devez faire mieux. Vous devez faire mieux. Alors, pourquoi est-ce que Jésus place la barre si haut ? Pourquoi il est si exigeant ? Est-ce que Jésus veut vraiment qu'on se sente coupable toute notre vie, qu'on soit misérable, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à ce niveau de perfection, et parce que ça peut être une vraie source d'inquiétude, de découragement, de voir qu'on n'y arrive pas. Et, ou est-ce que sinon Jésus il était trop optimiste? Il s'est dit, ils vont y arriver, ils feront mieux, et puis finalement bah, il est déçu. Depuis le moment où il a donné le serment sur la montagne jusqu'à aujourd'hui, il est déçu et frustré. Et en fait, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que les spécialistes de la loi et les pharisiens, ils ont beau obéir à tous les commandements, ils ont beau obéir aux 613 commandements, en fait, ils les violent. Ils violent ces commandements et ils enseignent aux autres à faire de même. C'est ce que dit Jésus. Et je vous avoue que ça a été un peu une prise de conscience pour moi dans la semaine, quand j'ai préparé ce message. Je ne m'étais pas forcément rendu compte de ça, parce que je pense que si vous avez grandi dans l'Église, vous avez sûrement cette image des pharisiens comme ceux qui sont vraiment à fond, quoi, ceux qui sont zélés, ceux qui donnent tout, un peu comme je l'ai décrit précédemment. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Jésus, en fait, quand il critique les pharisiens, il les critique la plupart du temps, pas pour être trop rigoriste, mais pour être trop laxiste. Vous regardez dans Matthieu 23, je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais en fait, c'est assez logique. Parce que si vous voulez être accepté par Dieu par votre respect de la loi, ça c'était la logique des pharisiens, on va être accepté par Dieu par notre respect de la loi, ben vous n'avez pas trop le choix. Il va falloir faire des aménagements, il va falloir rendre les choses plus accessibles, il va falloir diminuer le standard. On est obligé de faire ça. Il va falloir rendre les choses accessibles. Et en fait, on pourrait dire que les pharisiens, ils faisaient un peu une compétition de limbo, ou limbo, je ne sais plus comment on dit. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait ça cet été, sur la plage. Vous voyez ce que c'est, hein? L'idée, c'est on va passer en dessous de la barre en ayant le buste tourné vers le ciel et le bâton, on le descend de plus en plus bas, de plus en plus près du sol, et l'idée, c'est qui c'est qui va réussir à passer à la fin. Bon, en fait, les pharisiens, ils faisaient ça, mais ils mettaient le bâton tellement haut qu'en fait, mais tout le monde se qualifie, quoi. Même grand-maman de 98 ans, elle peut passer facilement. Tout le monde passe. C'est ce que faisaient les pharisiens. On n'a pas commis de meurtre. On est OK. Ça va. Et juste pour vous dire, enfin vous donner un exemple de ce laxisme chez les pharisiens disaient par exemple, vous lisez Matthieu 23, ils disaient « Mais si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par serment. Mais s'il jure par l'or du temple, alors là oui, là il est engagé. Bon, » Un autre exemple, c'était de dire « Si quelqu'un jure par l'autel, tu n'as pas besoin de tenir ton serment. Mais par contre, si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, là il faut tenir l'engagement. » Et je ne sais pas si vous voyez la logique. Mais en fait, il disait, nous, les docteurs de la loi, vous inquiétez pas, on a bien étudié les choses. Et il y a des serments, en fait, que vous pouvez tenir et d'autres que vous n'avez pas forcément à tenir. Ça dépend comment vous jurez. Mais c'est quasiment risible, en fait, parce qu'un serment, enfin, de base, c'est un engagement solennel devant Dieu qu'on prend et on doit le tenir, enfin, quelles que soient les conditions. Mais là, les pharisiens disent, non, mais si en fonction de l'or du temple, de l'offrande, de l'autel, enfin, on peut s'arranger. Il n'y a pas de souci. On va trouver un moyen, on peut s'arranger. Ça rentre dans telle case, bah ok, vous devez cocher ça, vous devez faire ça. Mais si ça rentre dans une autre case, ben, pas obligé. Et puis même, vous pouvez mentir paisiblement. Hein. C'était un peu ça l'idée quand même. Et en fait, c'était assez récurrent hein, quand vous regardez les évangiles dans la logique des pharisiens de dire, bah, pour toutes les lois, on va mettre toutes les astérix qui vont bien. On va faire tout ce qu'il faut pour nous retrouver dans des cas particuliers dans lesquels finalement, on peut faire ce qu'on veut. On peut mentir. On n'a pas à s'occuper des pauvres, on peut faire ceci, on peut faire cela. Il y avait cette logique-là. Parce que si vous avez cette logique des pharisiens, bah faut bien rendre les choses accessibles. Il faut bien que ce soit possible. Il faut bien qu'on arrive à s'en sortir pour être accepté par Dieu. Et ça, c'est une logique qui est assez incontournable, en fait, si vous prenez comme point de départ autre chose que la grâce de Dieu envers nous. On finit hein, par monter la barre tellement haut, hein, comme dans le limbo, là, que bah, y a tout qui passe. Tout le monde passe. Et on conclut même finalement qu'on est dans le bon camp en fait, parce qu'on fait rien de mal, on a tué personne la semaine dernière, on est dans le camp des gentils, ça va. Et la logique de Jésus en fait, elle est tout autre. Hein? Le comportement extérieur intéresse Jésus, mais Jésus il regarde là aussi. Il regarde aux dispositions du cœur. Je me suis trompé de côté, je sais plus. Non, c'était le bon. Pour Jésus, convoiter, en fait c'est déjà trompé. Pour Jésus, s'emporter, se mettre en colère, c'est déjà tué. Et en fait, quand on voit à quoi ressemble la justice des scribes et des pharisiens, on comprend à quoi devrait ressembler cette justice supérieure dont Jésus parle, cette justice supérieure qui doit caractériser ceux qui sont dans le royaume. Et ce qu'on comprend alors, c'est que la justice du royaume, bah, c'est pas forcément d'en faire plus. Hein, le but, c'est pas de répondre à 614 ou 615 commandements plutôt que 613, ça, c'est pas l'objectif. Mais l'objectif, hein, c'est d'avoir un cœur qui est droit, d'avoir un cœur qui est bien disposé à l'égard de Dieu et de notre prochain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas ici dans quelque chose de quantitatif, on est dans quelque chose de qualitatif. Jésus ne parle pas de faire plus. Il veut une qualité, une justice qui est une qualité différente. Et l'attitude du chrétien envers la loi, ça devrait être ça, de rechercher cette meilleure justice, cette justice du cœur dans laquelle mes actions sont motivées par l'amour. Et c'est ça l'accomplissement de la loi, selon Jésus. Pas se conformer à une justice extérieure, à des règles, mais respecter l'esprit de la loi. Et ce matin, si on est chrétien, j'aimerais juste qu'on réalise en fait que Jésus ne nous appelle pas à baisser le standard, il ne fait pas comme les pharisiens, mais il monte le standard, il augmente le standard, parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit et parce qu'on possède une puissance supérieure, pour un standard supérieur. On en a parlé, l'Esprit est là. Est-ce qu'on pourrait monter les plus hauts cols du Tour de France plus vite que les champions cyclistes? Ça paraît impossible. Ça paraît impossible, mais ça devient plus si impossible si en fait on a un vélo électrique. Et quelque part, c'est ça que Dieu a fait en nous donnant le Saint-Esprit, c'est ça qu'il a fait. Il y a une puissance nouvelle pour une vie nouvelle. Mais si on n'est pas né nouveau, si on ne vit pas par l'Esprit, notre obéissance, elle ne dépassera jamais l'obéissance des scribes, elle ne dépassera jamais l'obéissance des pharisiens, jamais celle des spécialistes de la loi. Alors, avant de conclure, juste une citation, Charles Siméon qui dit: un homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui a reçu le Saint-Esprit, il ne se plaint pas de la rigueur de la loi, mais de la méchanceté de son cœur. Et il ne désire pas que les commandements de Dieu soient abaissés à son niveau, mais il veut atteindre le plus haut sommet des commandements divins. Alors en conclusion, ce matin, j'ai juste quelques questions et j'ai un encouragement à vous laisser. Quelques questions pour essayer de nous appliquer tout ce qu'on a vu là. Quelle est notre justice ce matin? Est-ce que c'est celle d'un spécialiste de la loi, celle d'un pharisien? Est-ce que c'est celle d'un membre du royaume de Dieu? Est-ce que j'ai tendance à diminuer, être laxiste envers moi-même? Est-ce que je me crée finalement une petite loi perso, un peu comme le faisaient ces spécialistes de la loi, ces pharisiens, pour être à l'aise avec moi-même, avec ma façon d'être, avec ma façon de faire? Ou est-ce que vraiment il y a cette soif qui est là? Je veux atteindre les plus hauts sommets spirituels, je veux répondre, je veux obéir à la loi de Dieu. Est-ce que ce qui compte pour moi, c'est de paraître un bon chrétien aux yeux de tous, ou est-ce que c'est que mon cœur soit bien placé, que mon cœur soit au bon endroit? Par exemple, est-ce que je suis attristé seulement quand je suis pris en flagrant délit de péché? Je suis en train de mentir, on me chope en train de mettre en colère. Est-ce qu'il y a juste ça qui m'attriste? Ou est-ce que je suis aussi attristé par des pensées qui sont là, qui sont malveillantes, qui traversent mon esprit, et que personne d'autre que moi et que Dieu ne connaisse? Est-ce qu'il y a cette attitude aussi de repentance à ce niveau-là? Et pour quelle raison aussi est-ce que je fais ce que je fais finalement? Est-ce que je le fais pour exister? Est-ce que je le fais pour être aimé? Est-ce que je le fais pour être admiré? Pour ne pas froisser? Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut faire les choses. Pour ne pas contrarier, pour avoir raison, pour remplir mon vide intérieur, pour compter pour les autres. Ou est-ce que vraiment il y a cet amour de Dieu et du prochain qui motive profondément mes actions? L'apôtre Paul nous laisse ce verset, il dit l'amour c'est l'accomplissement de la loi. Ce qui accomplit la loi, c'est l'amour. C'est l'amour. Et enfin, est-ce que je sais que recevoir l'Esprit, ça change la vie? Dans le Nouveau Testament, j'ai pas réussi à vous le dire mieux que ça, mais nul n'est sauvé, en fait, s'il ne désire en conséquence obéir. On n'est jamais sauvé dans le Nouveau Testament sans vivre en sauvé. On n'est jamais justifié sans désirer être sanctifié. Le salut est un don, tout est un don, on l'a dit, tout est grâce, on ne mérite rien, mais Dieu nous donne aussi d'obéir. Dieu nous donne aussi d'obéir. Et avant qu'on prie, je vous ai dit, j'avais un encouragement aussi pour vous ce matin, et je termine sur ça. Cet encouragement, il part simplement d'une observation, c'est que je me suis rendu compte que la plupart des gens dans mon entourage qui ont réussi à vraiment perdre du poids, parce qu'à mon avis, ils en avaient marre, ils se sont dit « Ok, je veux perdre du poids ». Souvent, c'est grâce à quelque chose qui les a inspirés. Un coach, ou alors ils ont vu un gars voilà, qui était bien, bien en chair, et qui s'est mis au sport, qui s'est donné, et en l'espace de quelques mois, qui est devenu une machine, voilà, il n'y a que du muscle presque. Et en tout cas, voilà, ils ont vu quelqu'un, qui les a inspirés, qui leur a donné une vision et surtout dit « Ouais, regarde tout ce que ça change. Regarde tout ce que ce gars peut faire maintenant. Regarde l'apparence physique que ça engendre. » Et à ce moment-là, j'ai vu ces personnes-là commencer à faire des choses, à mettre en place des choses qu'ils n'avaient pas, enfin, qu'ils pensaient peut-être même ne jamais pouvoir mettre en place. Et ils ne l'ont pas fait par contrainte, hein. Ils ne l'ont pas fait en traînant des pieds, mais ils l'ont fait avec joie, ils l'ont fait avec enthousiasme, parce qu'ils avaient une vision de ce qu'ils allaient pouvoir devenir. Et c'est exactement ça que l'Évangile nous donne. L'Évangile ne nous dit pas « arrête de », « cesse de », « il faut que », mais l'Évangile fondamentalement nous dit que maintenant qu'on est accepté par Dieu, maintenant que quelque part on est bien dans nos baskets, maintenant que je n'ai pas besoin d'être devant les autres la personne parfaite que en fait, je ne suis pas, et bien maintenant qu'il y a toutes ces choses, alors aspire à l'excellence. Arrête de faire le minimum syndical pour essayer d'être un chrétien à peu près potable et poursuis l'excellence. C'est ça que nous dit l'Évangile. Aspire à l'excellence. Et vous avez ça dans tout le Nouveau Testament, vous lisez les Béatitudes, vous lisez le fruit de l'Esprit dans Galates, vous lisez 1 Corinthiens 13, vous lisez tous ces passages. Ces textes ne nous disent pas « il faut que, arrête de », mais ils disent « vous êtes aimé, vous êtes accepté, et maintenant, regardez ce que vous pouvez devenir. Vous êtes aimé, vous êtes accepté en Christ, et maintenant, regardez ce que vous allez un jour être. Regardez le but pour lequel Christ vous a racheté. » Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste arrêter de regarder nos petits défauts et avec crainte, avec remords, de dire « Ah, faut gommer ça », mais on va commencer à dire « Oui, j'ai faim. Oui, j'ai envie. Oui, j'ai faim et soif de la justice, comme dans les Béatitudes. Oui, j'ai faim et soif de la paix. Oui, j'ai faim et soif d'être cet homme qui est doux et humble. Si seulement je pouvais pardonner plus librement, si seulement je pouvais faire preuve de modestie, si seulement je pouvais être généreux aux dépens de ma personne. » Et là, on a faim. Et là, on a soif. Et là, il se passe quelque chose. Et le Saint-Esprit agit. Et je crois que quand Jésus parle de ciel et lumière, c'est de ça dont il parle. C'est de ça dont il parle. Tant que notre christianisme, c'est uniquement « il faut pas que, il faut arrêter de », enfin, il n'y aura pas de ciel et de lumière, les amis. Il n'y aura pas de ciel et de lumière. Mais le jour où vraiment on commence à courir après ces choses, là, la lumière, elle est là. Là, c'est le gros spot qui est là. Lumière du monde, celle de la terre. Et ça donne une vie qui n'est pas juste convenable, en fait, qui n'est pas juste potable. Mais ça donne une vie qui dénote radicalement avec tout le reste de ce qui nous entoure, par son pardon, par son amour, par sa modestie, par sa générosité, par toutes ces choses. Et je voulais juste dépeindre devant vous ce matin la vision incroyable de ce que Jésus est venu rendre possible pour nous. C'est ça qu'il veut pour nous. C'est ça l'objectif. Il est élevé, il est haut, et on peut se dire « Waouh !» C'est énorme, Père, ce que tu nous demandes, mais quelle joie de réussir quand l'Esprit nous rend capable de faire ça. Quelle joie de réussir quand il nous rend capable de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Est-ce que l'équipe de louange peut me rejoindre? Vous pouvez jouer tranquillement en instrumental, et j'aimerais juste qu'on puisse aller dans la prière tous ensemble, pour demander à Jésus vraiment cette obéissance, cette justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, supérieure aux spécialistes de la loi. Et on prendra un chant derrière, qui s'intitule « Je te donne tout » et je pense qu'il convient bien pour répondre à la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, je crois que Tu nous appelles encore, tu nous dis « Toi, suis-moi ». Et Seigneur, aide-nous à répondre à ton appel et à le faire vraiment avec enthousiasme, avec joie, Seigneur. Tu sais où l'on est chacun de nous dans nos vies. Tu sais les difficultés, les galères, les choses qui nous font mal, les choses où on se dit « on aimerait avancer, on aimerait aller plus loin ». Seigneur, juste j'ai envie de te prier, donne-nous faim et soif de justice, Seigneur. Donne-nous faim et soif de ressembler à Jésus. Donne-nous de ne pas nous contenter du minimum syndical. Sors-nous de cette mentalité, Seigneur. Donne-nous de voir combien tu n'es pas juste venu pour qu'on soit bien. Oui, pour qu'on soit bien dans nos baskets, mais tu veux faire vraiment quelque chose en nous. Tu veux vraiment nous transformer. Tu veux vraiment nous amener à te ressembler. Seigneur, je te demande que tu nous rendes plus conscients de ça. Que tu nous donnes d'aspirer à ça de manière ardente. Seigneur, à la fin de ce temps de jeûne et prière de cette semaine, je te demande que tu rencontres nos cœurs à ce niveau-là. donne-nous d'être ce peuple des béatitudes, d'avoir faim et soif de justice, d'être enfin sel et lumière, comme tu veux qu'on le soit, pour cette ville de Paris et sa banlieue, Seigneur. Viens te glorifier à travers nous. Viens faire plus, Seigneur. On a soif de plus, on ne va pas rester là où on en est. Merci pour les victoires, merci pour les combats du passé remportés. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Mais Seigneur, ce matin, on veut te dire plus. On veut te dire encore plus, Seigneur. Plus de Jésus, plus de te ressembler, plus de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à vivre dans l'amour. Cet amour qui accomplit la loi, cet amour que tu as incarné, et qui t'a donné d'aller jusqu'à la croix pour nous, où tu as donné ta vie et où tu es mort et ressuscité. Tu nous appelles à te suivre ce matin, Seigneur, qu'on puisse y répondre vraiment de manière forte et ferme dans nos cœurs. Amen.